Je suis au dernier étage du Palais des Festivals à Cannes, avec une vue magnifique, très ensoleillée sur la baie, et avec surtout Gérald Duchossois. Bonjour Gérald.
Bonjour Firouz, merci de m'accueillir.
Voilà. Finalement on se retrouve, on était censé se rencontrer au début de cette édition, et apparemment le programme était très chargé, avec des rencontres très importantes. On parle de Cannes Classique. Cannes Classique, c'est une sélection à côté de la sélection officielle qui propose des films restaurés, qui propose des rencontres. Et cette année, les temps forts, quels étaient-ils?
Alors, le Cannes Classics s'inscrit pleinement dans la sélection officielle. Nous sommes partie intégrante du Festival de Cannes et donc de la sélection officielle. Nous agissons suivant le même processus de sélection que les autres films qui sont proposés, donc des films récents. Nous avons des propositions qui viennent du monde entier et puis effectivement nous essayons de bâtir des temps forts. Donc cette année nous avons rendu hommage à la première femme réalisatrice et productrice Alice Guy Blaché avec un documentaire de Pamela B. Green, Be Natural. Nous avons aussi programmé un documentaire sur Jane Fonda in Five Acts, donc le premier samedi lors d'une projection de gala. Un événement exceptionnel.
Nous avons, en présence
de Jane Fonda et de la réalisatrice qui avait fait un documentaire incroyable sur Spielberg de 3 heures qui est passé au Festival de New York au mois d'octobre. Nous avons célébré le centenaire de Ingmar Bergman. Donc nous ne programmons pas à proprement parler de rétrospective. Donc nous avons montré pour la première fois une restauration 4K du 7e sceau, ainsi qu'un documentaire qui traitait de l'année 1957. L'année où Bergman a réalisé Les Fraises Sauvages et le 7e sceau. Et puis un documentaire plus personnel de la réalisatrice allemande Margarete von Trotta, qui parle de sa relation à Ingmar Bergman et de l'influence qu'il a eue sur son travail et aussi sur le travail de nombreux réalisateurs. Donc ça, c'était pour les grands temps forts. Nous avons aussi montré du patrimoine africain. Depuis quelques années, il y a des grands mouvements de restauration qui se font de par le monde. Et donc le patrimoine africain est également une chose qui est à l'esprit de nombreux restaurateurs, de nombreuses cinémathèques. Et donc nous avons pu montrer 3 films de patrimoine africain et qui ont attiré un public assez important. Donc nous en sommes vraiment ravis. Donc ça, c'était vraiment pour les grands temps, enfin quelques grands temps forts, parce que nous en avons de nombreux durant le festival. Aujourd'hui, nous avons rendu hommage à Pierre Hissian, qui était un découvreur de cinéma, qui nous a quittés le week-end dernier, qui était un des qui avait été attaché de presse avec Bertrand Tavernier, qui était un cinéphile érudit, passeur de cinéma, toujours énergique pour aller propager la bonne parole, qui vous forçait à avoir un œil sur les films toujours plus acéré, une volonté de montrer des choses différentes, qu'elles soient du passé ou du futur, vraiment quelqu'un d'exceptionnel que nous avons perdu. Et donc nous avions dans l'intention de montrer l'un de ces deux films, 5 et la peau, et qui du coup est devenu une séance hommage. Et donc nous avons pu montrer le film dans une très belle restauration qui a été menée par TF1 Vidéo avec Carlotta aussi, un distributeur de patrimoine. Et puis nous avons de nombreuses propositions qui viennent notamment de Mosfilm avec Guerre et Paix dans une version restaurée proche de l'original. Nous avons montré des grands classiques de l'histoire du cinéma avec Voyage à Tokyo, Le voleur de bicyclette, et puis des découvertes comme ce film letton, Quatre chemises blanches, un film de 1967 qui avait été interdit en Lettonie à l'époque parce que jugé anti-gouvernemental.
Anti-soviétique.
Oui, c'est ça, exactement, puisque en fait, les Lettons avaient la commission de censure lettonne, et puis après, il y avait la commission de censure
moscovite.
Exactement. Donc, du coup, le film avait été interdit car jugé anti-étatique, et c'était un film important pour le patrimoine letton, et donc nous avons pu montrer ce film restauré à Cannes Classic cette année. Donc nous avons des propositions diverses et variées qui vont dans de nombreuses directions, à la fois les genres, à la fois les cinématographies, des grands films, des découvertes, des raretés, des documentaires de cinéma, voilà, faits pour être vus en salle. Et puis nous avons aussi cette année des rencontres qui ont été menées par conjointement avec Laure Cazeneuve, qui s'occupe généralement du jury et qui a travaillé à l'élaboration de ces rencontres.
Donc les leçons de cinéma.
ce qu'on appelait auparavant les leçons de cinéma, qui étaient devenues plus ou moins les masterclass, et puis qui cette année évolue vers rendez-vous avec, pour instituer le fait que la parole des artistes puisse être entendue, et dans un format un petit peu nouveau, sans extrait de film, avec des questions du public, vraiment pour essayer de...
Et un modérateur.
Voilà, c'est ça. Et puis en général un journaliste ou un critique qui pose des questions sur, sur la carrière d'un acteur ou d'un réalisateur.
Et cette année, les rendez-vous, c'était avec...
Alors, cette année, nous aurons Gary Oldman demain, donc pour parler de sa carrière d'acteur. Nous avons eu John Travolta hier. Auparavant, nous avons eu Christopher Nolan. Et puis, nous avons eu aussi Ryan Coogler dès les débuts du festival.
Donc, des rencontres qui sont très sollicitées par le public.
Oui, effectivement, il y a une grande part de journalistes et de professionnels qui viennent y assister. Et puis, c'est, l'aspect un peu magique, c'est que ces rencontres sont aussi ouvertes aux cinéphiles. Donc, dans le cadre du Festival de Cannes, on permet aussi aux cinéphiles, tout comme à Cannes Classics, d'assister à ces rencontres. Parce que Cannes Classics est bénéficie d'une séance unique à chaque fois. Et pour cela, vous avez des professionnels, des journalistes, et puis aussi beaucoup de cinéphiles qui peuvent voir les films dans des conditions optimales dans le cadre du Festival de Cannes.
En général, si je ne me trompe pas, ces rencontres se déroulent dans la salle Buñuel, au dernier étage. Une salle qui a une dimension humaine et conviviale, qui permet justement peut-être un échange plus intense avec les invités.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve que la salle, pour ça, se prête vraiment bien aux rencontres. Il y a une intimité assez forte, on est très proche des artistes. Et la salle est d'une capacité qui vraiment rapproche le public des artistes. Ça, c'est vraiment pour ça, cette salle est assez exceptionnelle. On fait aussi, nous, toutes les projections de Cannes Classics dans cette salle. Et c'est assez drôle parce que ça offre une intimité entre l'œuvre de patrimoine et le public qui est assez forte, d'autant que nous avons beaucoup de présentations. Tous les films sont présentés en fait, soit par des artistes, soit par les réalisateurs lorsqu'ils sont encore en vie, ou bien alors par d'autres professionnels. Et c'est vrai qu'on a des séances magiques comme celle qu'on a eue avec Anna Karina qui venait présenter La Religieuse. En général, c'est assez court, c'est assez bref, bien que l'émotion soit très présente.
Très intense. Et Gérald, d'après ce que vous dites, je comprends qu'il y a beaucoup de travail en amont, d'échanges, puisqu'il y a des propositions multiples et variées, très bigarrées. Est-ce que c'est des échanges qui se font avec les cinémathèques des pays concernés, ou comment se déroule en fait la sélection, les propositions qui se reviennent après?
Alors les propositions émanent de nombreuses entités. On peut avoir des productions, des fondations, des distributeurs, des ayants droit, des cinémathèques, des équivalents des CNC quand il n'y a pas de cinémathèque dans certains pays. Donc vraiment, on a des propositions qui viennent de tous les horizons.
Et de tous les continents aussi.
De tous les continents, oui. Il y a vraiment l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique dans son ensemble, les terres australes, on reçoit des propositions de partout. Ça, c'est assez magique. Et donc, ils nous contactent tout simplement, et puis à partir de là, on discute avec eux pour savoir quel film ils souhaitent nous proposer, quel film ils souhaitent mettre en avant, parce que parfois il y a des incompréhensions sur ce qu'est Cannes Classics. Cannes Classics va montrer une restauration qui vient d'être achevée d'un film de patrimoine important, soit un grand film de l'histoire du cinéma, soit une redécouverte, une rareté. Donc il y a tous les cas de figure, et à partir de là, effectivement, on discute, on demande des extraits, on demande à visionner le film, on demande des extraits de la restauration si la restauration est en cours. Voilà, pour juger à la fois de l'importance du film et puis aussi de la qualité de la restauration.
Donc c'est le pays concerné qui va fournir la restauration, ou il y a aussi une participation de Cannes Classics?
C'est l'entité qui fournit, comme au Festival de Cannes. Ce sont des différentes, ce soit des sociétés, soit des institutions qui nous proposent des films. Et donc Cannes, dans ce cas-là, montre, si vous voulez, dans le bel écrin du Festival de Cannes, les films dans une sélection, puisqu'on a beaucoup plus de films qui nous sont proposés que de cases dont ils peuvent bénéficier durant le festival.
Et dans quel format sont-ils proposés?
Alors, on a tous les films, là, cette année, étaient en DCP, la plupart 4K. Donc, plus ça va, plus le niveau de restauration augmente. Donc, on voit effectivement une exigence de la part de nos interlocuteurs comme de notre part. Et aussi, on avait une copie 70 mm lors de la projection de 2001 qui a été montrée comme à l'époque, donc avec...
En présence du comédien.
En présence, de l'acteur principal, de la famille de Stanley Kubrick, ainsi que de Christopher Nolan, grand fan de Kubrick devant l'éternel, pour venir présenter le film en salle de Bussy. Et là, on dépasse le cadre de Cannes Classics, on est dans un événement mondial.
Intergalactique. Sans faire de jeu de mots.
En tout cas, qui va assez loin, oui, effectivement.
et qui a en tout cas drainé une foule importante, ne serait-ce déjà que pour la montée des marches.
Oui, oui, effectivement, il y avait une très belle montée des marches, et puis après, il y a eu une séance de gala en présence de plus de 1200 spectateurs, donc un film de patrimoine en copie 70 mm dans le cadre du Festival de Cannes, devant une salle comble.
Techniquement, pour les auditeurs, ça nous intrigue de savoir à quel moment un film devient classique.
Alors,
si et entre dans le patrimoine.
Oui, si on suit la définition du CNC, on est avant les années 2000, donc on s'arrête à 1999. Nous, on s'arrête plutôt aux alentours du début des années 90. Je sais que le Festival de Venise, lui, qui a aussi une section, s'arrête plutôt dans les années 80. Donc, en fait, ce sont des réflexions que l'on a par rapport au film que l'on nous propose. Moi, je me mets toujours dans la tête d'un cinéphile qui a, voilà, comme moi, lorsque j'étais en 1990 et que j'avais 15 ans, et je me disais, est-ce qu'un film de 1975 était déjà un film ancien ? Oui, c'était le cas. Après, il faut effectivement que le film ait eu une importance à l'époque, que la restauration soit bonne, et aussi qu'on ait quand même un certain recul par rapport au film. Je pense que si on est trop près, c'est assez difficile de savoir si les films se sont inscrits d'emblée dans l'histoire du cinéma, ou s'ils ont déjà trouvé leur place, ou s'il faut encore laisser un peu de temps. Donc ce sont des réflexions en fait, que l'on mène à chaque fois. On a des règles, mais...
elles sont malléables.
Oui, c'est sûr qu'après, quand vous bâtissez une programmation, ça va aussi dépendre de ce que vous voulez mettre en avant, des films que vous avez, des propositions, et puis aussi de l'intérêt du film.
Et c'est un travail qui dure toute l'année. Là, on est en plein dans le feu de l'action, et c'était des journées très longues apparemment, mais toute l'année, vous êtes à l'affût, vous cherchez.
Alors, c'est surtout en... le Festival de Cannes est un aimant, donc on nous envoie au fur et à mesure de l'année des propositions, et puis il y a aussi l'expérience du délégué général Thierry Frémaux qui a fondé la section 2004 qui effectivement reçoit de nombreuses propositions toute l'année, monte des grands projets comme 2001, et puis après il y a des propositions qui nous sont faites par la voie assez classique de la prise de contact, d'inscription de films en ligne, et puis des discussions qui sont vues avec nos différents interlocuteurs. Donc il y a beaucoup de dialogue, il y a du visionnage, il y a beaucoup de dialogue, parce qu'il y a une exigence de notre part, et puis il y a aussi une tenue qu'il faut avoir, et puis la capacité aussi de proposer des films. La restauration n'est pas la même pour tout le monde, et il faut aussi bien se rendre compte que Cannes a un certain niveau d'exigence, et donc demande effectivement à ce qu'il y ait une belle tenue par rapport aux projections qui seront faites. Et un soutien aussi de la part des entités qui nous soumettent les films. Il faut savoir que le patrimoine a besoin d'être accompagné, tout comme un film récent. Il faut faire de la promotion, il y a des artistes à faire venir, refaire des dossiers de presse, des belles affiches, soutenir les films, amener du public en salle, que les professionnels soutiennent aussi. Donc il y a tout un accompagnement, si vous voulez, multiple, qui est nécessaire et dont nos interlocuteurs ne se rendent pas toujours compte. Nous sommes dans le cadre d'un festival de cinéma, nous ne sommes pas une cinémathèque avec un public régulier qui a une carte. Chaque projection est un événement.
Gérald, quand vous dites que justement la restauration dépend d'interlocuteurs, est-ce que ça veut dire que selon les pays, justement, ils n'ont peut-être pas les moyens de proposer une restauration de qualité pour Cannes ?
Alors en fait, ça va dépendre des pays, de leur savoir-faire, des exigences, des laboratoires avec lesquels ils travaillent aussi, parce que vous pouvez très bien être dans un pays et puis faire restaurer votre film à l'étranger, c'est tout à fait possible. Voilà, vous pouvez très bien être en Asie et faire restaurer votre film par l'Imagine Retrovata en Italie, qui est un laboratoire italien très très célèbre, l'un des premiers probablement à avoir travaillé là-dessus de manière aussi active. Donc il y a des passerelles qui sont tout à fait possibles. Donc après, ça dépend de vos interlocuteurs, ça dépend des relations qui ont été menées. Effectivement, ça a un coût, il faut en être conscient, mais ce coût contribue à la sauvegarde du patrimoine cinématographique des différents pays, à long terme, exactement. Donc ça aussi, ça dépend aussi des politiques des pays, des studios, des ayants droit, des fondations. Donc vous avez la Film Foundation qui aide certaines cinématographies plus fragiles à faire restaurer des films. Donc il y a un grand mouvement de discussion, de contact, de renforcement pour permettre que différentes cinématographies soient restaurées.
Alors Gérald, ce soir, plus personnellement, vous étiez avant au service de presse, là vous êtes à Cannes Classique, donc vous connaissez plusieurs coulisses du Palais des Festivals. Vous avez toujours aimé le cinéma, vous avez toujours été attiré par le 7e art ?
Oui, je pense que comme beaucoup d'entre nous, je suis né en 75, en 78 j'ai vu mon premier film en salle, en 1980 on avait un magnétoscope, donc j'étais abonné à deux vidéoclubs, Canal Plus est arrivé en 84, donc j'ai vu un nombre de films très très important, et puis après j'allais au cinéma quasiment tous les vendredis avec mon père qui prenait des après-midi de congé pour m'emmener au cinéma, donc... le cinéma faisait partie de notre vie de manière très très présente. On a toujours eu des discussions autour des films. Chez moi, il y avait très très peu de censure, donc j'ai vu beaucoup de films très jeunes qui n'étaient pas forcément faits pour les enfants, mais j'ai aucun problème
Pasolini.
Avec ça. Pasolini un peu plus tard quand j'étais adolescent, mais d'autres films beaucoup plus. Moi, j'étais L'Empire des Sens, je l'ai vu quand j'étais adolescent, je devais avoir 14 ou 15 ans, je pense. Oui, 15 ans. Et puis beaucoup de cinéma d'action. Moi, j'étais fan de films de comme beaucoup de gens de ma génération, je pense. J'ai grandi avec Bruce Lee, avec Clint Eastwood, avec Sylvester Stallone, donc j'ai vu énormément de films d'action en salle, en VHS, beaucoup de films de Hong Kong aussi dans des copies VHS qui n'étaient pas terribles, mais en tout cas qui nous donnaient un accès au cinéma d'Asie très très fort. Donc si vous voulez, il y a aussi un accompagnement des films, et puis après mon père par exemple aimait beaucoup les films plus étranges, avec une atmosphère différente, il était très versé contre culture, donc j'ai vu aussi beaucoup de choses très, très engagées, qui n'étaient pas forcément...
Plus alternatives.
Oui, plus alternatives, hein, qui n'étaient pas toujours en accord avec les idées qu'on avait tous à la maison, mais en tout cas qui étaient des propositions intéressantes et qui permettaient aussi de dialogue, parce que le cinéma c'est aussi beaucoup de discussions. Donc oui, et mes grands-parents adoraient le cinéma aussi, donc j'étais... on était entouré de cinéma à la maison et de musique.
Question difficile, parce que quand on a qu'un classique, on ne peut pas avoir trop de préférences, mais vous avez peut-être quand même des cinéastes qui vous ont inspiré.
Oui, alors effectivement, on a tous des cinéastes de chevet. Il faut savoir que quand on travaille à l'établissement de Cannes Classics, on a le respect, si vous voulez, de l'histoire du cinéma d'une part, de l'œil neuf qu'on aime avoir par rapport aux nouvelles propositions qu'ils nous ont faites, et puis effectivement, il y a des réalisateurs qu'on aime plus particulièrement et qu'on souhaite mettre en avant, mais ça c'est un dialogue qui s'établit assez facilement avec les œuvres qui nous sont proposées. Là-dessus, quand on travaille à Cannes Classics, on n'est pas en train de bâtir un programme autour d'un réalisateur qu'on aime. On n'est pas dans cette optique-là, ce sont des restaurations récentes qui sont faites, qui arrivent parfois le jour même pour les présentations à Cannes, donc on n'est pas véritablement, si vous voulez, dans une programmation où on dirait on a envie de faire tel ou tel auteur. C'est aussi dans l'importance du cinéma, dans l'importance d'une actualité, dans une mouvance, c'est une dynamique par rapport à ce qui est fait autour de certains auteurs.
On comprend que dans la démarche, il y a le travail de transmission, non seulement de conservation du patrimoine, mais de transmission. Est-ce qu'il y a un public cible ou est-ce que le public est très diversifié ?
Alors, on a un public qui est constitué de professionnels, de journalistes, et puis aussi en grande partie de cinéphiles, puisque, comme vous le disiez, l'intérêt, c'est qu'il y ait une grande part de transmission qui soit faite. Il y a les redécouvertes pour certaines personnes qui ont déjà vu les films en salle lorsqu'ils étaient adolescents, jeunes adultes, etc. Et puis, il y a surtout cette idée effectivement de passage, parce que quand on aime le cinéma, voir un film à Cannes dans les conditions optimales qui sont proposées par les techniciens, les salles que nous avons dans le palais, c'est une chance inouïe en présence d'artistes qui sont venus spécialement pour ça. Je pense que c'est assez magique et on sent bien à chaque fois qu'il y a quand même quelque chose qui s'en dégage.
Et les films qui ont été proposés durant cette édition de Cannes Classique, y a-t-il moyen de les revoir pour ceux qui n'auraient peut-être pas pu se présenter ici ?
Effectivement, après, le but, c'est que les films soient vus le plus possible et que l'accompagnement soit fait après, qu'ils trouvent des distributeurs. Après, il y a toute une chaîne de distribution des films. Alors évidemment, nous, ce qu'on a toujours en tête, c'est la salle de cinéma, vraiment que les films de patrimoine retrouvent l'écran des salles de cinéma. C'est pour ça qu'on les montre ici en salle, et pour qu'après, effectivement, il y ait des possibilités pour des cinématographies étrangères ou pour certains films, de trouver des distributeurs, s'ils n'en ont pas encore, et qu'ils soient vus en salle de par le monde. Alors on est bien conscient que dans certains pays, ce sera le DVD, le Blu-ray, la télévision, le streaming. Donc il y a de multiples canaux qui arrivent pour voir du patrimoine. En revanche, on a toujours envie que le film de patrimoine soit vu en salle.
Et vous pouvez nous mettre en bouche pour la prochaine édition ?
Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore commencé à travailler à la prochaine édition. Vous savez, les choses se font vraiment une fois qu'on a terminé le festival. On a d'autres propositions qui vont commencer à arriver, il y a déjà des gens qui nous parlent, et puis après on verra de toute façon. Vous savez, les choses se font parfois sur plusieurs années, notamment sur les documentaires cinéma ou des restaurations qui se lancent, et puis finalement les budgets s'arrêtent, donc ça repart 2 ans, 3 ans. Donc tout est toujours en travail, c'est vraiment une constance.
De longue haleine.
De longue haleine, oui.
Merci Gérald Duchossois.
Merci à vous.
Et bonne chance pour la fin de cette édition, à l'année prochaine. Merci.